manger. Alors on commence le cours, mon cher ami.
Quel rapport avoir par rapport à ceux qui ne font pas l'armée
voilà, quoi. Vous voulez parler du monde religieux?
Exactement. Exactement. Ok. En soi, il est certain que c'est plus qu'une mitzvah, c'est une très grande mitzvah, très grande obligation. Lorsque le peuple juif est en danger, de partir et de défendre le peuple. C'est une chose qui va de soi. Néanmoins, les grands de la Torah ont décidé, avec l'accord à l'époque des chefs de l'État, Ben Gurion, Rabin a continué de façon extrêmement virulente dans ce sens-là, qu'une partie des Juifs, les Bnei Torah, serait une partie des Juifs qui s'adonneraient à l'étude de la Torah sans aller à l'armée. Comme disait Rabin, Kabbalah Be'adenu, on a une tradition comme quoi les Bahurei Yeshivot, les étudiants de Yeshivot ne vont pas à l'armée. Il est certain qu'en cas de guerre, s'il y a une nécessité, on peut même partir en guerre, mais on ne peut pas partir en guerre si on n'a pas fait de l'armée auparavant. Tu ne vas pas aller jeter des cailloux sur l'ennemi. D'accord? Donc il faut décider, est-ce que nous sommes pour l'armée ou pas pour l'armée? Alors, nous sommes pour l'armée, mais pas pour tout le peuple d'Israël. Il y a une nécessité qu'une partie du peuple reste pour donner le côté spirituel. Maintenant, parlons non-juifs, après on parlera juivement. Pour les non-juifs, chaque chef d'armée sait qu'un soldat est un bon soldat s'il est motivé. Sans motivation, avec le meilleur armement, la guerre c'est une chose qui est dure, une chose qui demande des efforts colossaux de la part des soldats. S'il n'y a pas une bonne motivation, peine perdue. Motivation suffit, j'ai une bonne raison de me battre. Actuellement en Israël, dans le monde non religieux, à l'armée, il y a une démotivation. Les meilleurs soldats aujourd'hui en Israël sont les soldats religieux, parce qu'ils savent qu'ils se battent pour une terre sainte, la terre d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Les autres disent qu'on rende la terre. Et entre nous, ils ont raison. Du point de vue non religieux, le peuple d'Israël est un voleur. Il vient par la force des armes, il fait ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, il fait quelques centaines de milliers de réfugiés arabes. C'est vrai que les Arabes devraient les prendre dans leur territoire. Eux, les Arabes, les pays arabes limitrophes, ont exprès laissé maintenant la population palestinienne pour faire pression sur Israël. Et quelque part, ce sont eux, les États limitrophes, qui sont responsables. Ils ont créé la réalité du peuple palestinien, qui est une chose qui était inconnue avant. Mais néanmoins, il y avait ici une population arabe qu'on a mis dehors. On a dit, oui, mais eux aussi nous ont mis dehors. T'as au moins autant de juifs qui ont été mis dehors des pays arabes. D'accord? Moi, personnellement, mon père vient du Liban. Beaucoup d'entre vous d'Afrique du Nord, d'autres d'Irak, d'autres d'Égypte. Eh bien, ils ont été mis dehors sans avoir le droit de prendre toutes leurs richesses qu'ils avaient sur place. Comme les Palestiniens ont été mis dehors. Mais moi, je ne joue pas maintenant à la vengeance. Tu m'as fait comme ça, alors je te rends. Moi, de quel droit, quelle est ma légitimation d'habiter cette terre? C'est pas ma terre. Non, mais c'est faux, mon cher monsieur. Il y a 2000 ans, c'était moi qui étais là. Ah, tu regardes l'histoire. Pendant 2000 ans, tu étais absent. Maintenant, tu reviens. Ouais, ben, j'étais quand même avant. Il y avait les Juifs, après les Arabes, après il y a eu les Juifs, de nouveau. Donc on réintègre nos terres. Si tu me dis comme ça, j'ai dit là, tu t'es trompé. Parce qu'il y a 3000 ans, tu n'étais pas là. Et ton bouquin à toi, ta Torah, le prouve. Vous êtes une bande d'esclaves qui sont sortis d'Égypte. Vous êtes des Égyptiens. Votre père venait d'Irak. Il est passé quelque temps, il a planté sa tente ici. Il raconte que le bon Dieu lui a dit c'est ta terre. Et parce qu'il a planté sa tente, il y a une seule partie que peut-être on peut discuter, le caveau du Marpella. Il y a un petit cimetière minuscule. Là, ça c'est marqué que tu l'as acheté. Si le bouquin il est vrai, alors tu as droit au caveau du Marpella. Mais après, t'es une bande d'esclaves égyptiens qui est venue ici, et vous étiez des guerriers, Et puis, il y a une population ici, des femmes, des enfants, 31 rois qui ont été un vrai génocide. 31 rois dans vos sources, prend Josué. On leur coupe les têtes et tout. Un vrai génocide. Fichez le camp, bande de voleurs. Du point de vue de la réalité humaine, un juif qui habite cette terre est un voleur. Alors, la seule légitimité d'habiter ici, c'est quoi? La Torah. Si nous reconnaissons la Torah comme étant le livre de Dieu, la Torah débute par Bereshit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Demande Rashi à dire Rabbi Yitzhak, pourquoi la Torah commence-t-elle par Bereshit? C'est pas de la Torah Bereshit, c'est la cosmogonie, comment le monde a été créé, c'est très sympathique, 6 jours, les astres, les animaux, les serpents, qu'est-ce que j'en sais? Mais c'est pas de la Torah! Torah, c'est un code de loi, permis, interdit, cachère, pas cachère. Là, tu aurais dû commencer, dit Rashi, premier commentaire de Rashi dans toute la Torah, aurait dû commencer avec la première mitzvah donnée au peuple d'Israël. Ce mois-là est le premier des mois de l'année où on reçoit la mitzvah de Kiddush Achodesh, de sanctifier le nouveau mois. C'est lorsque Bnei Israël sortent d'Égypte. Bien, Moshe Rabbeinu commence à donner les lois de la Torah. Les 613 lois commencent avec Moshe Rabbeinu, celles qui concernent le peuple d'Israël. Mais même les lois noachides, il y a eu 7 lois noachides qui ont été dictées auparavant, elles sont répétées pour le peuple juif dans la Torah. Donc on a dû commencer la Torah au milieu du livre de Shemot. Cette première partie de création du monde, d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est pas de la Torah, c'est de l'histoire. Tu aurais dû faire 2 bouquins. Un bouquin de Torah, un bouquin histoire du monde. Demande Rashi, pourquoi tu me mets le bouquin histoire du monde dans le bouquin Torah? Ça n'a rien à voir, c'est pas de la Torah. Répond Rashi, c'est oui de la Torah. Parce que si un jour, regardez comment Chazal sont prévoyants, il y a 2000 ans, ils écrivent ça, si un jour viendront les peuples de la terre et disent, vous êtes des voleurs, et voler une terre qui n'est pas la vôtre, ça ne change rien si c'est maintenant au XXe siècle, ou si c'est il y a 3000 ans, c'est exactement la même question. Est-ce qu'à l'origine cette terre t'appartient, ou tu es un voleur? Réponse, la terre appartient au Créateur. C'est lui qui l'a créé. C'est la régie. Et lui autorisait un locataire de venir ici, 31 peuples. Un beau jour, il leur a dit, écoutez messieurs, dégagez. Et lorsque Josué est venu, il n'est pas venu comme ça tuer. Il a dit, vous avez 3 solutions. Ou vous devenez nos serviteurs, ou vous dégagez, ou on fait la guerre, et tant pis pour vous. Et tous ont opté guerre. Non, il y a eu 7 peuples, il y a 31 rois, il y a 7 peuples, Girgashi, Chazal disent comme ça, il a fui, il était là en Afrique. Et dans les écrits archéologiques, on a une stèle qu'on a trouvée dans la région de Carthage qui dit « Nous sommes le peuple Girgashi qui avons fui Josué Ben Navé, le brigand. » Dans les écrits byzantins, il y a un témoignage sur une stèle pareille qu'on a trouvée dans la région de Carthage. Quoi qu'il en soit, la seule légitimation pour un juif d'habiter cette terre, que Dieu nous a donné cette terre, la terre promise à Abraham, la terre promise par Dieu à Moshe, au peuple d'Israël. Sans ça, il faut prendre des bagages et partir. Vous me direz, mes Américains aussi, ils ont piqué une terre qui n'est pas la leur. Ils ont mis tous les Indiens dans les réserves. Et les Français aussi, ce n'est pas des Français là-bas, ce sont des Francs, des Tartares. Donc ils sont venus des Indo-Européens, ils ont liquidé nos ancêtres les Gaulois. Hein, nos ancêtres ne sont pas les Gaulois. Les Gaulois ont été liquidés par les Francs, ce sont des Français maintenant. Et italiens aussi, c'était les Gaules, les Ostrogoths, les Visigoths, qu'est-ce que j'en sais, d'accord? Tous les barbares qui sont venus d'Indo-Européens et ont conquis l'Europe. Moi je dis, je m'en fous. Les autres sont des voleurs, moi je ne peux pas être un voleur. De quel droit j'habite une terre qui n'est pas la mienne? La seule légitimation pour un juif d'habiter cette terre, c'est la Torah. Sans ça, tu dégages, tu es un voleur.
D'accord, mais l'ONU, c'est pas de légitimation. Tous les peuples, ils disent, voilà, tu peux venir...
Reprends les frontières de l'ONU. Tu as une petite bande par-ci, une petite bande par-là. Ok, très bien.
Et après, on se défend. Et alors, on prend des territoires pour montrer qu'on a une influence forte parce que sinon, on va...
Ok, alors faisons la paix et rends. Faisons la paix et rends dans ces territoires.
On peut pas rendre à un sauvage qui veut pas...
Faisons la paix, on mettra là, on fera la paix. De quel droit t'habites maintenant ici, Ramoth?
N'importe quel guerre, lorsque il y a une guerre avec un territoire, n'importe quel peuple garde le territoire, lorsque l'Allemagne
prend l'Alsace, elle la garde. L'Alsace-Lorraine, il y a eu tellement de discussions, ça fait des guerres, encore des guerres, encore des guerres, à la fin, ils font la paix et ils font d'après la logique des choses. Ils ont rendu une partie, c'est certain. En tout cas...
À la base, quand Israël a été créé, il n'y a aucun cas dans un but religieux. Et Herzl, quand il écrit, c'est dans un but...
D'accord. Je suis en train de dire maintenant à Herzl, à Ben-Gurion et leur clique, d'accord, qu'ils n'avaient pas le droit d'habiter cette terre. Herzl a très bien compris, il a dit on va aller au Birobidjan. Non, c'est un désert, rien du tout. Là. Il y a rien. Peut-être on aurait eu des problèmes, pas les passants, les Birobidjanais. D'accord, on a eu les réfugiés birobidjanais et le mouvement pour la libération du Birobidjan. Bon, ça se peut. En tout cas, dans la réalité quotidienne, aujourd'hui, c'est devenu la Palestine,
bon,
maintenant.
On peut dire alors au moins les territoires de l'ONU, alors d'après les territoires de l'ONU, c'est légitime alors.
Ouais, on peut dire, si les 70 nations, l'ONU, l'organisation des Nations Unies, c'est pas 70 nations, c'est 140 nations, décident de nous donner maintenant une bande de territoire, ça nous revient. Le reste, tu les prends pour légitime défense, mais si on te dit maintenant, tu les rends contre la paix, on doit les rendre. Donc tu habites ici de façon non légitime. Donc un soldat non religieux dit pourquoi je me bats? Je me bats comme maintenant. Et c'est vrai, tu as un mouvement ici en Israël extrêmement puissant de gens qui sont pro-palestiniens. Et ils ont raison, moi j'étais comme eux. Moi j'ai un oncle qui était terroriste. Terroriste, il est mort, pas besoin de me chercher. D'accord, il est décédé. Il faisait partie du Irgun, de l'organisation Stern. D'accord. Il me racontait comment ils faisaient les bombes. Il mettait dedans avec des cahiers, des clous rouillés, et comment il lançait ça dans une station. Un vrai terroriste. Bien, moi, j'avais 17 ans, 18 ans, j'étais gauchiste à mort. Mais j'engueulais. Il s'est énervé, mais j'engueulais. De quel droit t'habites cette terre? Dégage! J'étais très, très convaincu. Et sans l'argument, j'étais pas religieux à l'époque, sans l'argument Torah, tu n'as pas le droit d'être ici. C'est pas honnête, c'est malhonnête. Tu me diras, tout le monde est malhonnête. Ok, mais moi je ne suis pas malhonnête. Moi j'aime les papillons, j'aime la nature, peace and love, et terminé. Je ne vais pas commencer à... Donc, il est nécessaire, si déjà nous parlons du point de vue juif, croyant, et nous comprenons que nous devons garder cette terre et la défendre. Nous devons donner une motivation aux soldats. Si tu n'as pas derrière le soldat une unité qui donne les motivations à l'État, ton soldat sera un mauvais soldat. Et les laïcs ont compris cela. Ben-Gurion a compris cela et Rabin a compris cela. Ils ont dit, nous voulons qu'il y ait une partie des juifs qui lisent la Torah parce que c'est ça notre identité. Je suis quoi en tant que juif si je n'ai plus maintenant mon histoire, si je n'ai pas ma spécificité juive, qui ne peut pas être le falafel. En plus, c'est libanais. Qui ne peut pas être là, the new Israeli way. Ok, le koba tembel, et puis le ouzi dans la main gauche, le falafel dans la main droite. Et la tomate...
Comment ils ont créé leur identité, les États-Unis?
Pardon?
Les États-Unis, ils ont créé comment leur identité?
Je ne sais pas aujourd'hui. Ils ont créé une mais il y a derrière les États-Unis, il y a une unité de penseurs qui donne les voix, qui dans les médias, et sans cesse ça passe. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y a l'Amérique aujourd'hui, c'est kiff, mais lorsqu'il y a eu l'entre-deux-guerres avec la Russie, il y avait des messages très clairs, dans les films, tu vois, dans les films de Hollywood, ça passait très très clairement, les messages passaient. Alors il faut bien qu'il y ait une unité qui définisse les messages et qui les transmet. On appelle ça unité intellectuelle, appelle-la comme ça. Non religieux, religieux, j'aime pas ce mot. Intellectuel, des soldats intellectuels, ceux qui vont donner les directions. Ok?
C'est des protestants très, très croyants et qui disaient...
Au niveau religieux, tu parles. Ok, les Américains protestants. Ok, mais aujourd'hui, ils sont pas trop en masse, d'accord? Bien que oui, ça revient un peu. Mais disons, il y a un nationalisme. Il y a des gens qui pensent nationalisme et qui disent des messages nationalistes. Et voilà, il y a des chansons nationalistes, il y a des poèmes nationalistes. Il y a toute une culture. Notre culture, elle est juive, elle est nationaliste, d'accord? Mais il faut qu'il y ait une partie de l'État, des soldats intellectuels qui sont là pour déterminer et promouvoir cette culture nationaliste. Ça, c'est au niveau non-juif. Au niveau juif, spécifiquement juif, au niveau religieux en tant que croyant à la Torah. Et même en tant que non-croyant, celui qui regarde avec honnêteté l'histoire du peuple juif. On dit souvent, Dieu un beau jour va se dévoiler, il y aura un dévoilement de la vérité, il y aura un jugement. On dit, s'il y a vérité de Dieu, et si Dieu juge une personne, pourquoi n'as-tu pas connu la vérité? Que va répondre l'aborigène d'Australie? Que va répondre le papou, je sais pas, d'Afrique, ils habitent les papous, d'accord? Que va répondre le pauvre mongolien de Mandchourie, d'accord? Les gens qui ne connaissent pas, n'ont jamais vu, quoi, Dieu, qui, quoi, comment, de quoi on parle? Réponse. Chaque être humain a une conscience. Cette conscience lui donne premièrement la conscience de lui-même. J'existe. De facto, vient une autre question, pourquoi j'existe? Pourquoi? Y a-t-il un sens à ce monde? La question en elle-même suggère qu'il y a une réponse. Donc quelqu'un demande la question, quel est le sens? Donc, c'est qu'il y a un sens. Albert Camus dit, j'ai une soif de sens. Il est impossible qu'il y ait un monde comme ça pour rien. J'ai une soif de sens. Quel est ce sens? Sans savoir le sens de ce monde-là, c'est le mythe de Sisyphe. Je pousse une grosse pierre au haut d'un rocher, elle retombe l'autre, au haut d'une montagne, elle retombe de l'autre côté. Je vis une vie pénible sans sens. Mais je cherche un sens, il doit y avoir un sens. Incapacité de trouver le sens. Nous répondons, il y a une solution très facile. Tu regardes l'histoire. Tu ne peux pas passer à côté du peuple juif. On parle de nous. Notre bouquin, la Bible, c'est le bouquin qui est le plus traduit, plus de 1000 langues durant l'histoire. On a un peuple dont on parle. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas un jour dans les nouvelles qu'on ne parle pas du peuple juif, que ce soit sous la forme de l'État d'Israël, de l'antisémitisme en France, du lobbying juif américain, de ce que tu veux. On parle des juifs. Tu n'es pas un truc inconnu sur Terre. Quelqu'un qui est honnête, regarde, c'est quoi? Un peuple hors de sa terre pendant 2000 ans. Chaque socio-historien, les socio-historiens disent que pour qu'un peuple puisse survivre, il faut qu'il y ait trois conditions remplies. Une culture commune, une langue commune, habiter sur une propre terre, une même terre. Et tous disent, il y a une exception, on ne comprend pas, le peuple juif. Le peuple juif, hors de sa terre, survit. Non seulement survit, mais dans quelles conditions il survit? Bechol Lavador, comme on dit le soir du Seder, Bechol Lavador, chaque génération, Omdim, Alenu Lechalotenu, des gens se lèvent pour nous anéantir. Et Dieu nous sauve de leurs mains. Léon Tolstoï écrit, c'est quoi le secret de l'immortalité du peuple juif? Hitler écrit, comment se fait-il que ce peuple vit depuis 4000 ans? Mark Twain écrit, tous les grands peuples ont disparu, ne sont plus. Le peuple juif reste le même, sans aucune trace d'altération, de fatigue. Il écrit ça il y a un siècle, encore avant la Shoah. En tant que peuple, le peuple il est là. Comment ça se fait? Réponse, il n'y en a aucune. Aucune réponse rationnelle permet d'expliquer ce phénomène. Comme dit Berdaïev, un autre socio-historien, Nicolas Berdaïev, écrit en 1936, peuple mystérieux et merveilleux, profondément marqué du sceau métaphysique, qui ne s'explique ni en termes matériels, ni en termes positivistes. D'après des critères matériels et positivistes, il y a longtemps que ce peuple aurait dû périr. Nicolas Berdaïev en 1936. T'es une anormalité. Quand je pose la question à des gens, c'est quoi un juif? Beaucoup savent déjà, genre, c'est le truc dont je parle dans les séminaires. Alors, est-ce que c'est une religion? Non, parce que tu peux être juif sans être religieux. Tu te sens juif, mais tu n'es pas religieux. Donc juif, c'est pas... Est-ce une race descendant d'Abraham et Sarkakov? Non, parce qu'on peut se convertir. Tu es fils de Charlemagne, et pourtant tu convertis, d'accord? Rabbi Meir était descendant de Néron César. Est-ce que c'est une appartenance à une terre? Non. La majorité de l'histoire, le peuple juif vit hors de sa terre. La majorité des juifs n'ont jamais mis les pieds sur cette terre. Alors qu'est-ce que c'est? Réponse, un bidule. Il n'existe aucune définition rationnelle du juif. Un énergumène bizarre venu d'ailleurs. L'aborigène d'Australie, ou le papou, regarde maintenant, honnêtement, l'histoire. Et il voit ce peuple. Tous les autres peuples, tous ont disparu. Sur leur terre, ils étaient. non persécutés, ont disparu. Les Français, c'est pas les Français d'antan. C'est pas la même langue, pas la même culture, pas la même bouffe, rien. Même pas la même race. L'Italien d'aujourd'hui, c'est pas les Romains d'il y a 2000 ans. Pas même religion, pas même langue, pas, rien, rien à voir. La même terre, c'est tout. Égyptien idem, grec idem, anglais idem, tous. Nous sommes les mêmes. Demain, Moshe Rabbeinu se lève, Rabbi Shimon Bar Yochai se lève, Arambam il se lève. Ah, Arambam, Arambam. Tiens, bah tiens, explique-moi là. Ça fait 2 heures que je me casse la tête sur cette phrase que tu as écrite. On parle du même Shabbat, des mêmes tef, du même tzitzit, du même texte, du même verset, de la même lettre du verset. On se casse la tête depuis 3000 ans dessus. Une même identité, un peuple. Hors de sa terre, survie, miracle ambulant. Quand on me demande pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas des miracles aujourd'hui, je lui dis aveugle, prends un miroir, regarde-toi. T'es un juif, t'es un miracle ambulant, un miracle à deux pattes. Non seulement cela, mais il y a 2000 ans, on nous dit déjà, dans la Gala de Pessah, chaque génération se forme pour nous anéantir. Et regarde comme c'est fantastique, ça rate jamais. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même rare qu'il y ait quelqu'un qui se lève et qui ait un programme d'anéantissement du peuple français. C'est rare dans l'histoire, ou du peuple espagnol, ou du peuple anglais. Chez nous, mais il n'y a pas 20 ans qui passent, il n'y a pas quelqu'un qui se lève, il n'y a pas ce programme. C'est assez étonnant. Ça va, lâche ma jambe. Il y en a d'autres sur la Terre. C'est extraordinaire. Il y a moins d'un an, se lève Mahmoud Ahmadinejad. Ce peuple n'a rien à faire sur Terre, on va le liquider. Avant, tu avais Arafat, tous à la mer. Avant, tu avais Nasser. Avant, tu avais Staline, avant, tu avais Hitler, avant, tu avais les bolcheviks, avant, tu avais les tsars, avant, tu avais Chmelnytsky, avant, tu avais les cosaques, avant, tu avais l'inquisition, etc. Ça rate jamais, ça rate jamais. Chaque génération, on se lève pour nous anéantir. Et qui se lève? Pas le gulu du coin. Une hyper grosse puissance, la super puissance du monde, contre rien. Quelques juifs qui mettent les tefs. Quelques juifs qui font encore cette Torah vieille de plusieurs millénaires. Et à tous les coups, la superpuissance disparaît. Et le petit peuple juif, il reste. Il faut être aveugle pour ne pas voir la main de Dieu. Aujourd'hui aussi, les ennemis nous entourent. Qui nous sauve? Nous. Toutes ces superpuissances qui avaient des armées bien plus grandes que les nôtres ont été détruites. Et nous, on a survécu. Grâce à qui? Grâce à quoi? Chazal, nos sages de mémoire bénie, disent, à quoi sont un peuple juif? À une brebis parmi 70 loups. T'as une brebis, mignonne comme tout. Tu rentres au cinéma. Tu vois, ça s'appelle le film. Une légende incroyable. C'est un titre intéressant. Tu rentres. À entre 17, c'est un cinéma religieux, séparé, hommes et femmes, dans le noir, pas de problème. Bon, on nous sépare. Et commence le film. Tadam, tadam, tadam. Une brebis qui paie tranquillement dans une prairie. La caméra regarde un peu les paysages. Il y a un gros pan, un zoom. Au loin, une meute de loups. 70 loups. Ils ont repéré la brebis. La brebis regarde, elle voit les loups elle aussi. Mais, elle commence à filer, elle court. La meute de loups se met à courir aussi. Et on voit comme ça, dans les collines, la brebis en train de courir, et derrière la meute de loups qui suit comme ça la caméra, en hélicoptère comme ça, on suit les deux, comme ça. D'accord. Et on voit que la meute de loups gagne du terrain. La caméra arrive et fait un gros plan sur la gueule du premier loup. Les yeux cruels, les crocs blancs. Langue baveuse, il se rapproche. On passe au ralenti. Tadadam, tadadam, tadadam. La musique qui devient de plus en plus angoissante. Tadadam, 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 tadadam. Il ouvre sa gueule, va dévorer la brebis. Tadadam, tadadam. Crise cardiaque. Il tombe par terre. Bon, il ne reste plus que 69 loups. Deuxième loup, de nouveau. Il se rapproche, on passe au ralenti. Les crocs blancs, la langue baveuse, les yeux cruels. Encore pire que le premier, celui-là. Il a l'air terrible. Il va se bouffer la brebis. Elle arrive. Il y a une peau de banane par terre, se glisse, casse une patte, éliminé. Plus que 68 loups. Bon, nous, on ne tient pas le coup. La brebis est tellement mignonne, on n'ose pas. On n'ose pas voir ce qui va se passer, c'est terrible. On sort dehors, fume une cigarette pour un peu se calmer. Et on se met à réfléchir. C'est pas bien de fumer, t'as raison. Mais dans ce cas, la pauvre brebis, qu'est-ce qu'il y en a ? On avait arrêté de fumer jusqu'à aller rentrer dans ce... Là, on a repris. Et on se dit, Miskena, la pauvre brebis. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la suite du film ? Elle est chanceuse, la brebis. On voit qu'elle est chanceuse. Ah, elle a peut-être un troisième miracle. Peut-être un quatrième miracle. À tout casser, un cinquième miracle. Mais à la fin, soyons réalistes. Soyons réalistes. T'as une brebis de 70 loups. Quelle fut la fin du film ? Les loups ont fait un méchoui. Hein ? On attend de voir le public sortir, en train de pleurer. Tu parles, le titre, c'est une légende incroyable. Tu parles, le méchoui. Le méchoui incroyable, ils auraient dû dire. Et on voit que le public ne sort pas. Qu'est-ce qui se passe ? Rentrer, on n'ose pas. On va sûrement le voir en train de se faire dévorer. Et on voit qu'il ne sort pas. Bon, à la fin, on prend notre courage à deux mains, on rentre dans la salle. Qu'est-ce qu'on voit ? The end, la fin. La brebis sanguinolente. Elle a été mordue, mais vivante, en train de brouter tranquillement dans une prairie. À côté d'elle, 70 loups morts. Messieurs, comment trouvez-vous ce scénario ? C'est le scénario le plus bête qu'on ait vu durant toute l'histoire du cinéma. C'est crétin. Mon fils de 5 ans, il dit « Papa, Superman, il vient. Il y a 1000 méchants devant lui. » Il prend son pistolet. Et il tue tous. Ou bien, sans pistolet. Viens ici, toi, premier. Paf, un coup de poing. Et les tac, 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 ils tombent l'un sur l'autre. Et les 1000, ils sont tous morts. Mais il donne un coup de poing. Il tire au pistolet. Il fait quelque chose. La brigade fait mais. À la fin du film, 70 loups morts. C'est complètement, absolument crétin. L'absurdité.
Israël, à l'époque actuelle, c'est plutôt Superman que la brebis. Elle est bien...
Attends, je te bats sur 4000 ans. Ça, c'est nous. Ça, c'est nous. Ça, c'est Am Israël. Un phénomène miraculeux de l'histoire qui n'a aucune explication rationnelle. Il faut bien le comprendre. Grâce à qui ? Grâce à notre force. Ch'touyote, c'est une bêtise innommable. Innommable. C'est impossible. Ça ne peut pas être le fruit du hasard. C'est une réalité ici miraculeuse. Les rabbins écrivent il y a 300 ans, le rabbi Yaakov Emden. Il dit, par mon âme, quand je vois les miracles que le peuple d'Israël vit par le fait qu'il est éternel, cette éternité d'Israël est bien plus grande à mes yeux que tous les miracles que Dieu a fait, béni soit-il, en sortie d'Égypte, dans le désert, etc. Ouvrir la mer rouge au bon moment, et après engloutir sur les Égyptiens, et tous les matins à la manne, et le rocher qui donne de l'eau, tous ces petits trucs, c'est la gnognotte. À côté de, t'as encore des juifs aujourd'hui, demandez à Einstein, quel homme de l'histoire auriez-vous voulu voir ? Seul choix, Newton, Archimède, Pythagore, il a dit Moïse. Moïse, pourquoi Moïse, quoi, c'est pas un grand mathématicien, Moïse. Lui demandait est-ce que vraiment il croyait à son truc que le peuple d'Israël survivrait 4000 ans. Tellement c'est anormal. C'est une anormalité. Nous sommes des anormaux, faut le comprendre. De ce fait, messieurs, nous sommes anormaux, on ne fonctionne pas comme les autres. On ne fonctionne pas par l'âme physique, on fonctionne par l'âme métaphysique. On l'a vu cette semaine et c'est pas pour rien, Parashat Matot. Le peuple d'Israël part en guerre. Ils vont conquérir le pays de Midian. Un pays entier. Combien de soldats compte l'armée de Moïse ? 600 000 hommes. Tous les hommes de 20-60 ans, 600 000 hommes. Il dit, c'est marqué dans la Torah, Elef la Maté. 1000 par tribu, 1000 par tribu. 12 000 ! Je ne comprends pas, Moshe, tu as un pays entier à conquérir. Tu as 600 000 hommes, tu mobilises que 12 000, mais ils vont se faire bouffer par l'ennemi. Moïse dit, c'est moi qui rajoute, c'est pas marqué, d'accord. Moi, je fonctionne la façon juive de nous battre. Qu'est-ce que c'est cette façon juive? Le Midrash dévoile, il y a 2000 ans. Qu'est-ce que Moshe avec les 588 manquants? Les 588 000 soldats se sont séparés en deux groupes. Un a étudié la Torah, l'autre a prié. 12 000 sont allés au combat. Toute la grosse majorité s'est séparée en deux. Une partie prie, l'autre partie étudie. C'est ça la façon juive de faire. Aujourd'hui, hélas, et ça je te parle à l'époque où, de Moïse, où tous sont des hyper religieux. Il n'y a pas un qui est Mechalel le Shabbat. Pas un. Ils sont avec Dieu, ils ont l'Arche Sainte. Hyper religieux. Et malgré tout, Moïse dit, il faut quand même que je mette toute la force dans quoi? Dans la prière et dans la Torah. Aujourd'hui, on est des nuls. T'as un petit pourcentage, combien? Même pas 1% du peuple qui lit la Torah. Que eux aillent au combat maintenant, mais c'est la fin d'Israël. C'est évident pour ceux qui veulent bien être honnêtes et voir que le peuple d'Israël ne survit que grâce à la Torah. Il y a une promesse que la Torah est éternelle, le peuple d'Israël qui fait la Torah est éternel.
Oui. Si les non-religieux sont plus motivés, si les très religieux ne font plus l'armée, qui est-ce qui défend le pays?
Comme on fait 4000 ans.
D'accord,
et on voit des miracles. Écoute, j'ai fait un cours l'année passée exactement sur le sujet. Un cours que j'ai au séminaire. Je ne vais pas refaire tout maintenant en long, mais... On a vécu il y a 15 ans une guerre. On envoie des scuds. T'as 39 scuds de 350 kilos qui tombent sur Ramat Gan, Tel Aviv. Pendant 4 minutes que les scuds sont en route, que font Am Israël? Tu n'as aucune parade contre les scuds. Les patriotes, ça valait rien. Les missiles patriotes anti-scuds ne valaient rien. Aujourd'hui, Israël a développé un missile anti-scuds qui s'appelle le Hetz, une fois sur deux Irak. On n'a pas encore de parade aux scuds. Que font pendant 4 minutes tous les juifs? Des millions de juifs pendant 4 minutes, ça voilà, dans quelques minutes, ces bombes mortelles tombent sur Israël, sur des femmes, des enfants, des innocents. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font?
Ils prient.
Résultat, zéro mort. D'accord. Zéro mort par la bombe. Hein, de crise cardiaque et quelques dames, hélas, qui ont oublié d'ouvrir le bouchon de Maskagan et ils sont morts asphyxiés comme ça. Mais des bombes, zéro mort, c'est du miracle pur et dur. Pur et dur. Restons calmes. De notre génération, on a vu la main de Dieu. Il faut bien le dire, il faut bien le comprendre. Pourquoi Dieu fait des miracles pareils? Ben, regarde, ça marche. Demain, messieurs, nous devions partir en promenade, la yeshiva, parce qu'il y a beaucoup d'invités à la yeshiva l'été. On veut faire connaître la terre d'Israël, un peu pèleriner sur les tombes et tzadikim. On ne le fera pas. Pourquoi? Parce que nous trouvons tout à fait immoral pendant que le peuple juif est en train de se battre, et il y a des blessés, il y a des morts, qu'on aime maintenant gambader à la plage. Néanmoins, demain à 17h30, 17h15 même, nous quittons tous à l'Yeshiva, allons au Kotel, une réunion de beaucoup, des centaines de milliers de juifs qui vont prier demain au Kotel, avec la présence des plus grands rabbins du monde, le rabbi Yosef, le rabbi Sternbourg, c'est le président du Badat, le rabbi Lefkovitch, un des plus grands rabbins de Bnei Brak Ashkenazim. Beaucoup des grands noms seront tous là-bas, ce qui est rare, que tous les rabbins s'unissent comme ça, pour aller prier à Dieu, que Dieu nous sauve. On espère que la Yéhoula viendra bientôt. Ça, c'est la méthode juive. Et ça marche. Alors, je ne dis pas qu'on va prier, et puis fini. On va aller comme ça en priant avec nos Tehillim. Bien que je pense que si tous les juifs prenaient les Tehillim, allaient comme ça aujourd'hui en face des Arabes, ça réglait tous les problèmes. Je suis convaincu. Mais bon, on ne compte pas sur le miracle. Mais qu'il y ait une certaine partie du peuple qui est là pour conserver la relation avec l'Éternel, tel que l'Éternel le comprend, tel que l'Éternel le veut, et nous dit, si mon peuple écoutait ma voix, mais tous les amis partiraient en courant, c'est marqué, dans toute la Torah c'est marqué, dans Shema Israël c'est marqué dans les Tilim qu'on dit le mercredi, dans le Sidour, c'est marqué dans le Parashat Bechukotai, un partira contre vous, un fera fuir 20, c'est comme ça. 1 fera fuir 10, 100 feront fuir 2000, ou 10 000, non. 1 fera fuir 20, et 100 feront fuir 10 000, je me souviens. 100 qui vont fuir vers faire fuir 10 000. Si, imbechokotai telechu, si vous irez dans ma Torah. Bechokotai, ce n'est pas mes lois. Chazal dit, si vous amélim ma Torah, vous peinez en Torah, tu prends le Gemara, tu te casses la tête. On a une promesse de la Torah, comme quoi c'est ça la méthode qui fait fuir l'ennemi. Aujourd'hui, on a pris d'autres méthodes et ça ne marche pas. Désolé, ça ne marche pas. Ça fait 60 ans que ce pays existe. On n'a pas, la paix, on a des morts sans cesse. Alors, si elle voulait qu'on soit tranquillement dans ce pays, qu'on ne soit pas canardé, on soit aussi canardé aussi. On a cru que l'idéal sioniste nous amènerait la paix. Il n'y aura pas la paix. La seule méthode qui peut amener la paix, c'est le bon Dieu. Et le bon Dieu, il dit, quand tu vas faire ma Torah, il n'y aura plus d'ennemis. Tu vas faire ma Torah, il y aura des ennemis. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, intelligents, maintenant? Aller nous battre. En prenant les derniers, ceux qui vont étudier la Torah, venez maintenant, on a besoin de vous au combat. Il faut des gens qui aillent se battre, c'est certain, mais il faut aussi les gens qui se battent, c'est le marteau. Si tu n'as pas quelqu'un qui prend le marteau et qui tape avec, à quoi ça sert un gros marteau que tu as? Comme je marquais dans Télim, si Dieu ne garde pas une ville, ça ne sert à rien le gardien. C'est Dieu qui gère, ça c'est juif comme méthode, c'est Dieu qui gère. Et Dieu, pourquoi il ne gère pas mieux? Pourquoi il déblessait des morts? Il dit, écoute, nous, Osé Elohim, donnez-moi de la force. Josué, quand il va conquérir la terre d'Israël, c'est marqué dans Josué 5, du coup, il voit un soldat. Il dit, qui es-tu? Es-tu soldat ami ou ennemi? Et je suis l'ange de la guerre. L'ange de la guerre d'Israël, c'est moi qui me bats pour vous. Je suis venu vous réprimander. Pourquoi? Parce que le soir, vous rentrez après le combat, vous allez dormir. Et moi, où je vais puiser de la force pour me battre pour vous? Vous devez rentrer le soir et aller étudier la Torah. Et toi, Josué, chef de l'état-major israélien, qui prend maintenant tous les généraux, messieurs, allez, ouvrez vos gmarotes. Allez, au boulot. Tosfot, Rabbi Akiva Eger, qu'est-ce qu'il dit? Tchak. Ça, c'est un chef d'état-major juif. C'est pas des blagues, la Torah. Les rabbins ne sont pas des gens imprudents. C'est des gens responsables qui te disent, voici la méthode de fonctionnement du peuple. Alors, si on a voulu faire autrement, ça a toujours raté. Je ne vais pas faire la conférence que j'ai faite. J'ai fait une conférence sur l'année passée, elle est sur le net. Elle s'appelle Cours exceptionnel, la seule solution. D'accord? Je montre l'envers. Lorsqu'on a cru dans longtemps, qu'est-ce que ça a amené? Qu'est-ce que ça a amené? Ça a amené qu'on on s'est fait liquider, on a tout rendu. On a rendu Gaza, on a rendu machin. On a pris les âmes de Goliath à la place de l'arme de David. Ça, j'ai fait un cours entier, je ne vais pas le refaire. Donc, la réponse que nous avons pour les gens qui pourraient nous critiquer, comme j'ai répondu maintenant, au niveau non-juif, tu as besoin d'une unité intellectuelle qui donne les motivations, sinon tes soldats, ils ne valent rien. Deuxièmement, au niveau juif, regarde l'histoire. C'est quand même une leçon assez éloquente. Alors toi, pendant 4 minutes, ça marchait. Maintenant, tu dis, non, maintenant, aujourd'hui, c'est d'autres règles du jeu. Ah, tu pêches. Oui.
Oui, mais à l'époque du choix,
il n'y avait pas la Gemara. Il y avait la Torah, c'est bon. Il y avait la Gemara, Baalpé. D'autres questions, messieurs? Raison de plus. Raison de plus. Si Dieu il est loin, on doit rapprocher. On a déjà tellement peu d'aide de Dieu. Alors maintenant, le peu d'aide qu'on a, on va encore l'annuler. Raison de plus pour mettre le maximum d'efforts dans la Torah. Grâce à Hachem, avec Baruch Hachem, la tchouva du peuple d'Israël, les prières du peuple d'Israël. Demain, grande prière, Dieu va éliminer tous nos ennemis une fois pour toutes, que ma chair se dévoile. Bimar, bienvenue, amen.